Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je veux t'adorer.
Il m'a été rapporté qu'un couple de gens aisés qui, après plusieurs années de mariage, n'avait toujours pas d'héritier. Mais un jour, l'épouse se trouva en espérance. Tout le monde se réjouit à l'idée de cet heureux événement. Et vint enfin le jour où elle donna naissance à un fils. Quelque temps après, les parents firent une grande fête à laquelle de très nombreux amis furent conviés. C'était l'hiver, et le porte-manteau n'y suffisant plus, les vêtements furent déposés dans une chambre attenante au vestibule. Pendant le repas, un des invités prit la parole et dit « Nous remercions nos hôtes de nous avoir invités pour cette grande occasion, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait voir l'héritier ?» La mère, toute heureuse, alla chercher le bébé dans son berceau, mais quelle ne fut pas son étonnement de ne pas l'y trouver. Une servante engagée pour l'occasion, à qui on demanda où était l'enfant, elle répondit que, comme il pleurait, elle l'avait changé de chambre et l'avait mis dans le lit des parents. Et là, on trouva le bébé, étouffé sous un amoncellement de vêtements. Pendant qu'on faisait la fête, on étouffait l'enfant. Ne pensez-vous pas que c'est encore ce qui se passe aujourd'hui? Le grand jour anniversaire de Noël éclipse et étouffe celui dont c'est l'anniversaire. En cette période de l'année, que d'illuminations, de vitrines alléchantes, que de victuailles proposées à nos papilles, que de couleurs chatoyantes, quel ravissement pour les yeux! Partout la fête bat son plein, partout des guirlandes, des banderoles, des boules bariolées, partout des sapins, des étoiles, des crèches, des miniatures, des santons de Provence, des mélodies évocatrices de la grande fête chrétienne, partout des vendeurs, des acheteurs emportant des paquets cadeaux emballés avec soin, rentrant frileusement chez eux pour y trouver la douceur du réveillon en famille et l'odeur des fumées alléchantes. Noël a grandi, assurément. Si un cataclysme s'abattait soudain sur notre Occident, figeant notre civilisation dans l'immobilité éternelle, et que dans 10 ou 20 siècles, des archéologues exhumaient des décombres ce qui se fait dans ces journées de fête, ne dirait-il pas devant ces vestiges retrouvés que ces gens étaient pieux? Comme Dieu devait être bien servi, comme on devait s'aimer dans ces temps-là, comme ils devaient faire bon vivre, comme ils étaient heureux. Nous qui vivons aujourd'hui, nous savons que tout cela, ce n'est que façade. Ceux qui sont seuls vivent en cette période de Noël, la pire semaine de l'année. Les plus lucides font un maximum d'heures supplémentaires pour oublier qu'ils sont plus seuls que jamais. D'autres boivent jusqu'à plus soif pour s'étourdir et oublier. Pour la majorité, Noël est devenu tellement grand qu'il cache presque tout entier un Christ devenu tout petit ou invisible. Qu'est-ce que Noël pour beaucoup? Un jour férié en plus? Une fête chômée, comme on dit en jargon technique, c'est le départ des vacances et les sports d'hiver, c'est la trêve des confiseurs, c'est au mieux le service de minuit qu'on suit à la télé pour entendre « Minuit, chrétien, c'est l'heure solennelle, mélodie que l'on n'écouterait pas si la musique était moins belle. » Avec ce Noël de parade célébré à la manière des hommes, jamais je ne connaîtrait le vrai Dieu. Qui est Dieu, me demanderez-vous? Regardez à Jésus, répond la Bible, et vous connaîtrez qui il est. N'a-t-il pas dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est un Dieu qui s'intéresse aux hommes que nous sommes, car en Christ, Dieu est venu naître comme un homme pour vivre au milieu des hommes, au cœur de leurs circonstances, de leurs problèmes, de leurs péchés. C'est un Dieu qui est humble, au point de s'abaisser jusqu'à naître dans une condition plus humble que le plus humble des hommes. C'est un Dieu qui veut partager avec les hommes sa gloire et ses richesses, car en Christ, il s'est dépouillé jusqu'à la limite du dépouillement. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis, est-il écrit. Et ainsi, au travers du vrai Jésus, celui des Écritures, nous voyons non seulement ce que Dieu est, mais par réflexion, comme dans un miroir, nous voyons tout ce que nous ne sommes pas, tout ce qui manque à notre vie. La lumière de ses perfections projette un éclairage dérangeant sur nos failles, nos lacunes, nos insuffisances morales, en un mot commençant sur nos péchés. Mais la découverte de notre pauvre et misérable moi a l'avantage de nous faire éprouver le besoin d'un sauveur. Or, c'est précisément cela qu'ont annoncé les anges. Voici, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Car si, dans les plaines de Bethléem, le ciel s'est ouvert pour saluer sa naissance, le même ciel s'est fermé au-dessus de sa tête à Golgotha. Le rendez-vous de Noël nous conduit au rendez-vous de la croix. Non pas la croix que l'on porte au cou comme un talisman ou un bijou de famille, ni la croix des calvaires qui se dresse solitaire le long des routes, mais à celle qui a été dressée pour lui hors des murs de sa ville et où il a été cloué comme l'étaient les criminels. Et pour bien montrer ce qu'on pensait de lui, on l'a mis entre deux brigands pour qu'il fasse le troisième. C'est là, dans sa dure et tragique réalité, que s'achève le conte de Noël. Les prophètes qui avaient annoncé sa naissance se devaient d'annoncer et de décrire sa mort, et ils l'ont fait de façon si descriptive qu'il est impossible de se méprendre quant à l'authenticité des récits qui nous sont rapportés. À la mangeoire de Bethléem répondent les « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Ils tirent au sort ma tunique, ils m'abreuvent de vinaigre, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les vagissements du nouveau-né s'achèvent par le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» du supplicié de Golgotha. Et ce grand « pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui traverse les siècles trouve sa réponse dans la voix des prophètes qui, après avoir si clairement annoncé sa naissance miraculeuse, nous ont donné l'explication de sa mort que l'on trouve tout au long du chapitre 53 d'Ésaïe, dont je tire quelques extraits. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'est livré à la mort pour nous. La somme de toutes ces prophéties veut dire qu'à notre place, il portait à la fois nos péchés et le jugement qui devait nous atteindre. Ayant ainsi satisfait à la justice éternelle qui réclame la mort pour le péché, Dieu pouvait pardonner aux brigands qui mouraient repentants. Et il pouvait lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Si par sa vie Jésus nous faisait connaître le ciel, par sa mort expiatoire, il nous ouvrait le ciel. »